Au risque d'en décourager quelques-uns, la présence au cours n'est pas obligatoire, enfin pour l'évaluation. Il faut que je vous le dise au premier cours, évidemment. Mais les cours vont être enregistrés, donc je les enregistre en audio seulement. Ce qui fait que si vous avez des difficultés pour venir, je vous le dis aussi pour ceux qui ne sont, enfin vos camarades qui ne sont pas là, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit, parce qu'il y a des séminaires parfois à cette heure-ci ou d'autres cours. Donc en revanche, c'est beaucoup plus facile évidemment de suivre le cours comme ça en étant présent que d'écouter un enregistrement après. Hein, mais je vous le précise quand même pour que vous soyez à l'aise hein, dans votre emploi du temps. Donc ce cours va avoir lieu un peu tout au long de l'année en réalité, avec des séances évidemment plus concentrées en début. Vous avez ici le début du calendrier. Alors vous trouvez tout ça sur un site qui s'appelle falaise.fr. Vous devez voir l'adresse là-haut, falaise, P-H-A-L-E-S-E.fr, falaise.fr, donc sur lequel vous trouvez le programme complet. Je l'ai affiché en bas, vous êtes peut-être comme ça que vous êtes arrivé ici et que vous avez vu l'affiche, mais vous pouvez le retrouver plus facilement sur le site. Alors, il va avoir lieu à peu près tous les 15 jours au début. Donc, notre premier cours aujourd'hui, le prochain dans 15 jours et ainsi de suite. J'ai étalé un peu le programme de formation à la recherche documentaire suivant l'urgence pour vous, c'est-à-dire pour votre mémoire. En commençant, on va le faire aujourd'hui par ce qui est peut-être le plus urgent, c'est-à-dire chercher des ouvrages sur votre sujet. Et puis ensuite, dans la prochaine séance, on parlera plutôt des articles et ainsi de suite. Hein. Donc j'ai mis, disons, les urgences au début. Et puis alors, il y a un autre cours qui, lui, est très décalé volontairement et qui aura lieu le 20 mars. Donc vous voyez, tout ça va s'échelonner à peu près jusqu'au début décembre. Un autre rendez-vous le 20 mars, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que vous serez en train de rédiger ou de finaliser votre bibliographie. Donc on aura un cours sur la présentation de la bibliographie. C'est pour ça que je l'ai échelonné de cette manière-là. Donc bah, vous noterez les dates. Et encore une fois, vous pouvez trouver au fur et à mesure donc, les enregistrements de chaque séance. Je vous ai mis un lien aussi vers les enregistrements de l'année dernière. Le programme, évidemment, est mis à jour chaque année, mais vous l'imaginez, ça ne change pas complètement d'une année sur l'autre. Donc, si vous voulez déjà avoir des informations sur certains outils bibliographiques, vous pouvez regarder celui de l'année dernière. Voilà. Vous trouverez également le lien vers un formulaire que je vous demande de bien vouloir remplir. Il s'agit simplement pour moi de savoir sur quel sujet vous travaillez. Parce que comme ça, je pourrais prendre des exemples directement sur des sujets sur lesquels vous travaillez cette année et ça sera plus éclairant pour certains d'entre vous d'avoir des exemples pris dans ces sujets. Un petit test quand même dès maintenant pour avoir une idée, pour que vous-même ayez une idée. Quels sont ceux d'entre vous qui travaillaient sur un auteur du 20e siècle ? 20e, d'accord. 21e ? Voilà, il y a presque autant, hein. Ça y est, le 21e est en train de dépasser le 20e petit à petit. 19e siècle. Ah oui, vous êtes encore très, très nombreux. Sur le 18e siècle, il y en a. 17e. Personne. 16e siècle. Ah, tout de même. Deux. Et sur le Moyen-Âge, qui est-ce qui travaille sur le Moyen-Âge? Personne. D'accord. Donc c'est important pour moi parce que comme ça, c'est pas la peine de prendre un exemple. Sur des sujets sur le Moyen-Âge qui sont assez spécifiques, vous l'imaginez. Hein, mais les médiévistes, souvent, sont dans d'autres parcours. L'objectif cette année, c'est de vous donner les outils les plus directement utilisables pour la bibliographie de votre mémoire. Alors, il va de soi que ces outils peuvent vous servir pour beaucoup d'autres choses, et je sais pas, des dossiers de séminaire ou même des recherches personnelles, mais ça va être directement dirigé vers la bibliographie de vos mémoires de recherche, avec cette particularité qui n'est pas entièrement de mon fait, c'est que vous avez déjà fait un travail de ce genre-là l'année dernière. L'immense majorité d'entre vous avez fait un mémoire l'année dernière avec une bibliographie, Et vous pouvez trouver un peu curieux que ce soit seulement cette année qu'il y ait une formation, mais l'année dernière, vous avez quand même eu une formation faite par le centre de documentation, donc plutôt à distance, un peu moins approfondie peut-être, mais c'est aussi l'organisation de notre master, c'est-à-dire une première initiation la première année avec un mémoire de 50 pages. Et puis un approfondissement la deuxième année avec ce mémoire de 100 pages qui va demander, vous vous en doutez, des recherches un peu plus approfondies. Hein, donc voilà pourquoi ça intervient seulement maintenant. Alors, on en vient au sujet d'aujourd'hui. Lorsqu'on fait un travail de recherche, il s'agit bien entendu d'être créatif, c'est-à-dire que ce que vous allez écrire doit avoir été présenté pour la première fois. Donc, enfin, vous avez un sujet dès maintenant qui est un sujet qui doit être innovant, c'est-à-dire sur lequel on ne va pas trouver de publication déjà toute faite. Alors, ça peut être soit, je pense à ceux qui travaillent sur le 21e siècle, un auteur sur lequel on n'a encore presque rien écrit. C'est l'avantage de travailler sur des auteurs très récents. Mais ça peut être aussi un angle nouveau sur un auteur qui, lui, a été très étudié, mais vous envisagez un sujet, un thème, un angle, une méthode qui n'a encore jamais été utilisée. Et c'est en ça que votre travail va être créatif. Mais pour faire ce travail créatif, il faut d'abord s'assurer de tout ce qui a été écrit sur le sujet précédemment. C'est la méthode scientifique, hein, cette méthode critique qui a été élaborée très longuement depuis le Moyen Âge. On peut dire, puisque c'est la méthode scolastique, hein, c'est-à-dire on s'assure d'abord de tout ce qui a été écrit sur un passage des Écritures ou des Pères de l'Église, et ensuite, une fois qu'on a fait le tour de tout ce qui a été écrit, ben, on peut passer à la suite, c'est-à-dire apporter une nouvelle explication. Méthode qui a été perfectionnée encore au XIXe siècle avec la méthode critique, qui s'est appliquée cette fois-ci non plus aux textes religieux, mais aux textes littéraires modernes. Et c'est de cette tradition que nous héritons aujourd'hui. Au Moyen Âge, les scolastiques avaient une image qui était celle du nain perché sur les épaules d'un géant. L'idée, c'est que le géant, c'est la tradition, donc tout ce qui a été écrit avant. Le nain est beaucoup plus petit, enfin, c'est la modestie propre à la tradition scolastique, mais comme le nain est sur les épaules du géant, il voit beaucoup plus loin et il est un peu plus grand que lui. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne dans la recherche, c'est-à-dire vous arrivez au bout enfin, les derniers pour le moment d'une tradition de recherche. Il faut d'abord que vous assuriez tout ce qui a été fait avant, et ensuite vous pourrez apporter votre pierre. Et pensez aussi que ceux qui viennent après vous doivent pouvoir se servir de votre travail. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de consulter des thèses ou des mémoires de master. Vous savez que c'est très utile aussi de pouvoir consulter des travaux qui ont été faits avant, parce qu'il y en a d'autres qui ont cherché une bibliographie, exploré certains textes, lu des sources qui pourront vous être signalées, etc. Donc votre travail doit à la fois faire un état des lieux, donc ce qui a été écrit avant vous sur le sujet sur lequel vous allez travailler. Vous apportez votre pierre à l'édifice, et il faut que ce travail, c'est-à-dire votre mémoire, c'est pour ça qu'il doit être déposé, soutenu, archivé, doit pouvoir servir à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il faut aussi le présenter d'une manière qui puisse être utile à d'autres chercheurs. Donc, de ce point de vue-là, le mémoire de recherche, c'est un genre assez particulier, très différent en particulier de l'exposé, vous pratiquez ou vous avez pratiqué également, avec ce compromis entre ce que vous apportez vous-même de créatif et ce que vous devez prendre chez d'autres. Alors, ça ne doit aller ni dans un sens ni dans l'autre complètement, c'est-à-dire ça ne doit pas être un simple état des lieux. Ça, c'est un exposé, hein, c'est-à-dire vous lisez tout ce qu'on a écrit sur un sujet et vous en faites état. Donc, c'est une partie du travail, mais ça n'est pas tout le travail. Et ça ne doit pas être aussi un travail entièrement personnel où vous donnez juste votre avis, votre sentiment, vos idées sur un texte. Il faut que ces idées s'appuient. Ça pourrait être ce qu'on appelle un essai, hein, c'est le propre de l'essai. Mais vous écrivez un travail scientifique, donc il faut que ça s'appuie sur toute une bibliographie. Donc voilà à peu près dans quel esprit on va travailler. Lorsque vous avez donc votre sujet, le premier travail, mais vous avez déjà dû commencer, surtout ceux d'entre vous qui ont eu leur sujet avant l'été, vous allez commencer à lire des ouvrages sur votre sujet. Pour le moment, vous avez sans doute un sujet, pas encore une problématique bien précise, c'est normal, hein, ça se précise tout au long de l'année. Mais sur votre sujet, il va falloir donc que vous trouviez tout ce qui peut le concerner, tout ce qui vous permet d'éclairer la question. Lorsqu'on parle d'un sujet, on peut l'envisager à plusieurs échelles. Imaginons que vous travaillez sur les images de la photographie dans l'œuvre de Marcel Proust. Bon, c'est un sujet imaginaire, mais assez typique. Vous voyez que vous allez avoir besoin de documentation, évidemment, sur la photo chez Marcel Proust, si vous en trouvez, donc ça entre pleinement dans votre sujet. Mais il va vous falloir aussi de la documentation sur Proust en général, et peut-être un peu plus particulièrement sur Proust et la technique, et les techniques, Proust et les arts, Proust et la notion de reproduction des œuvres d'art, etc. Mais aussi, sans doute, que vous lirez une biographie de Proust, parce qu'il faut que vous ayez quand même une idée assez générale de votre auteur. Et de l'autre côté, vous allez avoir besoin d'une histoire de la photographie, des ouvrages sur la photographie et les écrivains, en particulier les contemporains de Proust. Donc vous voyez que vous pouvez envisager votre sujet à plusieurs échelles. Et chaque fois, tous ces ouvrages vont vous être utiles pour traiter le sujet. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des outils qui vont vous permettre de chercher des ouvrages dans un premier temps. Donc des ouvrages entiers qui pourraient être consacrés à votre sujet. Pour ça, on va voir un certain nombre d'outils. Alors, je vais me contenter de vous les montrer. Certains d'entre vous sont connectés ou ont peut-être des ordinateurs personnels, donc vous pouvez les tester en même temps ou les tester un petit peu plus tard chez vous avec les indications que je vais vous donner ici. Le premier outil, évidemment, qui va être central pour tout ce que nous allons faire, c'est Virtuose. Oui, un mot sur les sites dont je vais vous parler. Je vous ai mis ici un lien, vous voyez, qui s'appelle liste de liens. Ça se présente comme ceci. Je vous ai mis des liens vers la plupart des sites et des outils dont je vais vous parler ici. Donc vous pouvez vous en servir. Mais sinon, pour trouver Virtuose, qui est donc le portail documentaire de Paris 3, il suffit de taper Virtuose ou Virtuose Paris 3 et vous allez pouvoir y aller. C'est pas toujours facile hein, d'ouvrir ces trappes. Alors Virtuose, j'espère que si vous étiez déjà à Paris 3 l'année dernière, vous le connaissez déjà. C'est le portail documentaire de la bibliothèque de Paris 3. Donc c'est un portail qui va vous permettre évidemment d'accéder au catalogue de la bibliothèque de l'université, mais également à toutes sortes de bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée et auxquelles vous pouvez avoir accès avec votre inscription d'étudiant. Ce sont les mêmes mots de passe que lorsque vous allez sur e-Sorbonne, par exemple, hein, pour avoir accès, je ne sais pas, à vos notes, à votre emploi du temps, etc. Donc vous vous identifiez. Voilà, je vais le faire ici. Identifier, vous mettez vos identifiants habituels, je pense que c'est votre numéro d'étudiant et puis le mot de passe qu'on vous a communiqué. Voilà, lorsque vous êtes identifié, votre nom doit apparaître en haut et vous êtes sûr à ce moment-là que vous êtes identifié. Faites-le parce que le portail fonctionne même si vous n'êtes pas identifié, mais vous avez accès à moins de ressources. Ah, donc pensez à vous identifier. Le portail fonctionne de la manière suivante. Vous pouvez d'abord faire une recherche directement ici. Alors, je vais reprendre mon exemple. Donc, je vais mettre photographie et Proust. Je vais le taper comme ça. Alors, on va reparler de ces équations de recherche, c'est-à-dire des expressions qui vous permettent de faire des recherches dans les bases de données. Elles ont une syntaxe très simple. Donc vous pouvez d'abord taper les mots directement et ça cherchera tous les mots dans la base de données. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des opérateurs. Donc ici, j'ai utilisé AND. L'autre opérateur, c'est OR.
OR,
hein, OU, donc et OU. Et à ce moment-là, ça veut dire que je cherche des ressources qui comportent ces deux mots.
Hein, donc je vais les chercher de cette manière-là. Si vous cherchez directement de cette manière-là,
le portail va interroger plusieurs bases de données qu'on va retrouver ici. Vous voyez les provenances hein, qui sont ici. Donc il a interrogé la salle Santeuil, c'est-à-dire c'est les ouvrages que vous pouvez trouver directement ici. Le magasin, donc ceux qu'il faut demander à un bibliothécaire pour obtenir. Mais aussi d'autres bases de données comme l'Armatec, etc. Hein, qui permettent d'avoir ces indications. Alors, les sources vont s'afficher ici. Et vous voyez, je trouve des choses assez pertinentes pour mon sujet. Il y a un livre sur Proust et la photographie, la résurrection de Venise. Bon, donc voilà, ça m'intéresse directement. J'ai un livre en anglais, Proust and the Power of Photography. Donc, très bien, à vérifier aussi. Voilà, Proust, une question de vision, pulsion scopique, photographie, représentation littéraire, Proust et les images, peinture, photographie, Marcel Proust sous l'emprise de la photographie, etc. Enfin bon, voilà, hein, on va avoir quelques ouvrages comme ça qui peuvent être intéressants. Il est bien précisé ici que ce sont des livres. Et donc c'est le cas le plus simple, hein, c'est le dans lequel un livre porte directement sur le sujet qui vous intéressait au départ. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est la manière la plus simple d'utiliser Virtuose. Malheureusement, ce moteur de recherche ne vérifie pas dans toutes les sources dont vous pouvez disposer. Il interroge quelques bases de données, mais pas toutes celles qui sont contenues dans Virtuose. Donc, vous serez obligé de compléter cette recherche d'une autre manière. Là, ce qui est intéressant, c'est que les résultats sont dans le catalogue de Paris 3. Vous voyez ? Donc, ce sont des livres que vous pouvez trouver ici à la bibliothèque. C'est donc ce qui est le plus facile d'accès pour vous. Et c'est vraiment la première méthode. Pour retrouver des livres. Vous voyez qu'ici, j'ai un menu déroulant. Là, actuellement, j'ai cherché dans le catalogue de Paris 3. Mais on pourrait trouver aussi, chercher dans plusieurs bases. Alors, les bases sont ici, la liste des bases de données. J'ai cliqué sur ce lien. Je crois que ça va s'afficher correctement. Voilà. Moi, j'en ai déjà sélectionné 4 ici, qui font partie des bases dont on va beaucoup parler, mais vous pouvez en sélectionner d'autres. Les bases, vous les trouvez ici, vous voyez, en sélectionnant toutes les bases, par exemple, on va avoir une petite idée de ce que ça contient. Alors, c'est une ressource énorme, hein, ces bases de données. Vous voyez, je suis juste à la lettre A, mais ça vous permet d'avoir un peu une idée de ce qu'on va trouver. Vous voyez, là-dedans, il va y avoir des bases très spécialisées. Par exemple, une base sur Shakespeare. Bon, comme vous n'êtes pas angliciste pour la plupart, ou enfin, peut-être certains d'entre vous travaillent sur Shakespeare et les relations avec un auteur français. Évidemment, dans ce cas-là, ça vous intéresserait. Mais vous avez ici un ensemble de bases qui sont souvent très spécialisées. Vous voyez, cette base sur la littérature africaine et caribéenne. Caraïbéenne, peut-être. Sur la poésie afro-américaine, sur la fiction aux États-Unis entre 1774 et 1720, etc. Donc vous avez un certain nombre de bases. Alors ça vaut la peine, dans un premier temps, quand même, d'y jeter un coup d'œil, parce que suivant votre sujet, vous allez peut-être tomber sur une base qui est vraiment intéressante pour vous. Vous pouvez restreindre ici par catégorie thématique. Par exemple, ce sont plutôt les bases en littérature qui vont nous intéresser. Et vous pouvez même spécifier encore des littératures d'expression française, par exemple. Vous voyez, si je restreins de cette manière-là, j'ai encore un nombre de bases assez important, hein, 47 bases. Mais vous voyez que ce sont des bases qui, a priori, vont nous intéresser un peu plus directement. Le dictionnaire électronique de Chrétien de Troyes, donc encore une fois, il n'y a pas de médiéviste parmi vous, mais vous voyez que le corpus Montaigne. Et puis des bases très générales, enfin on aura l'occasion d'en parler ici, comme Europeana ou le site Fabula. Alors vous trouvez là à la fois des bases de données avec un accès par abonnement, c'est-à-dire auxquelles vous ne pouvez avoir accès qu'en passant par Virtuose, et puis des sites ouverts, c'est le cas de Fabula par exemple, mais qui vous sont quand même signalés par ce répertoire dans Virtuose. Alors, donc, vous avez intérêt à passer par là. Chaque fois que vous trouvez une base qui vous intéresse, vous pouvez donc la sélectionner. Je vais le faire pour Fabula, par exemple. Voilà, et vous avez un accès sur la base qui vous permet de savoir un petit peu comment les choses se présentent. Vous voyez, chaque fois, vous avez un lien vers la base en question. Vous pouvez aussi les sélectionner, les intégrer. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai fait, moi, de mon côté, une sélection de bases de données dont je me sers souvent. Vous pouvez faire la même chose, hein, avoir votre propre répertoire de bases de données. Là, je viens de rajouter celle-ci, donc j'en ai un peu plus maintenant. Et lorsqu'on fait une recherche tout à l'heure, comme on l'a vu dans Virtuose, c'est dans ces bases de données que la recherche va être faite. Hein, donc ça vous permet de personnaliser vos recherches. Voilà, donc Virtuose, ça va être un outil vraiment essentiel parce que certaines des bases dont on va parler ne seront accessibles que par Virtuose. Je vous le signalerai au fur et à mesure. Alors, revenons à nos catalogues de bibliothèques. Donc là, on a vu comment accéder au catalogue de la bibliothèque de Paris 3. Donc c'est déjà un ensemble de ressources très important, ne serait-ce que parce que cette bibliothèque qui est rattaché à une université littéraire qui existe depuis plus de 40 ans, à un fonds littéraire très important. Autre avantage, vous le savez, c'est que vous avez des livres en accès direct. Alors ça, c'est une ressource importante, surtout dans cette phase de votre travail, c'est-à-dire la phase exploratoire. Si vous allez dans les rayonnages et que vous travaillez sur, Claudel, par exemple, vous allez dans le rayon et vous aurez tous les ouvrages de Claudel et sur Claudel au même endroit. C'est très commode parce que ça permet de feuilleter. Si vous travaillez sur Claudel, par exemple, enfin sur un sujet particulier sur Claudel, c'est très commode de prendre les ouvrages, de regarder la table des matières et de voir tout de suite s'il y a une partie du livre qui porte sur votre sujet, par exemple. Alors, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez le faire aussi à la BPI, donc la Bibliothèque Beaubourg. Je pense que tout le monde la connaît ou est allé y faire un tour. Gros avantage de Beaubourg, c'est qu'ils sont ouverts le week-end et jusqu'à 22h le soir. Donc, c'est les... L'inconvénient, c'est qu'elle est très attractive et qu'il y a parfois une bonne demi-heure de file d'attente. Mais bon, il y a des heures plus favorables que d'autres. Hein, mais pour ce travail de repérage, c'est très utile pour cette raison-là. Hein, c'est-à-dire que tout est regroupé au même endroit, par thème. Et vous pouvez, je reviens à mon sujet type, là, sur la photographie chez Proust. Je vais non seulement pouvoir explorer le rayon Proust, donc les œuvres de Proust et tous les ouvrages sur Proust, mais je vais aussi pouvoir aller regarder le rayon de la photographie et de l'histoire de la photographie en particulier, là aussi pour pouvoir feuilleter, trouver un ouvrage qui m'intéresse. C'est une bonne manière de découvrir des livres. La classification que vous avez donc ici à Paris 3 ou à la BPI ou dans les bibliothèques municipales la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle la classification décimale universelle, CDU. C'est une classification qui divise tous les livres suivant leur thématique. Donc le premier chiffre à gauche, hein, le chiffre des centaines, vous donne les grandes catégories. Par exemple, pour la littérature, c'est le 8. Et puis ensuite, le deuxième chiffre, le chiffre des dizaines, vous donne la rubrique plus précise. Par exemple, après 8, vous avez les 840, qui est toute la littérature de langue française. Et puis le troisième chiffre, précise encore. Alors généralement, quand vous trouvez un ouvrage dans un catalogue de bibliothèque, on vous donne ce code. Vous pouvez donc vous y reporter pour aller dans le rayon qui vous intéresse. Le gros avantage, comme son nom l'indique, c'est que c'est une classification universelle et que vous allez trouver le même codage normalement dans toutes les bibliothèques qui ont adopté cette classification. C'est intéressant pour cette raison-là. Après, évidemment, ce sont les bases de données qui vont vous permettre d'accéder aux mots-clés suivant des méthodes qu'on va voir maintenant. En dehors du catalogue de la Bibliothèque universitaire de Paris 3, vous avez
une base de données qui est essentielle, c'est la base du Sudoc.
Pareil, vous tapez Sudoc dans un moteur de recherche et vous y tombez très vite. Ça aussi, je pense que vous avez déjà dû l'utiliser. Je vais y revenir rapidement et surtout voir quelques fonctionnalités avancées. C'est le catalogue de toutes les bibliothèques universitaires françaises. Donc les bibliothèques ont mis en commun tous leurs catalogues et ont fait cette très grosse base de données, accessible librement. C'est très intéressant parce que vous pouvez non seulement... ça double le catalogue de Paris 3, mais vous pouvez aussi savoir si un ouvrage peut être trouvé ailleurs. On a une chance immense, évidemment, en travaillant en région parisienne, c'est qu'on a accès à un nombre de bibliothèques universitaires ou autres, d'ailleurs, incomparables, hein, même internationalement. Et vous avez déjà sans doute utilisé la bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque de la Sorbonne, enfin bon, etc. Les bibliothèques universitaires sont très nombreuses. Et puis, il y a beaucoup d'autres bibliothèques. Je pense à la bibliothèque plus spécialisée aussi, la bibliothèque historique de la ville de Paris, la bibliothèque des littératures policières, qui est à deux pas également, la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle. Suivant votre sujet, ça peut être aussi un endroit intéressant. La bibliothèque de l'Arsenal, qui est spécialisée en théâtre et en art du spectacle. Enfin, vous voyez, vous avez comme ça un grand nombre de bibliothèques dans Paris qui vont vous être utiles dans ce sens-là. Beaucoup de ces bibliothèques vont se retrouver ici sur le Sudoc. Alors le Sudoc fonctionne comme toutes les bibliothèques. C'est-à-dire qu'en tapant, je vais remettre ma formule, c'est juste pour permettre de comparer les résultats d'une bibliothèque à l'autre. Alors ici, vous voyez, j'ai fait une recherche très simple. J'ai recherché tous les mots de la notice et j'ai demandé un tri par pertinence. Pertinence, c'est-à-dire que j'ai normalement en tête les ouvrages qui correspondent le mieux à ma recherche. Ce qui veut dire que les mots-clés que j'ai tapés sont dans le titre, sont dans les descripteurs des sujets, etc. Donc, je vais... Alors, oui, là, j'ai des choses curieuses. Tiens, la photographie numérique, médicale et dentaire. Alors, bon, il y a peut-être un auteur qui s'appelle Proust. Je vais regarder quand même, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi il y a du bruit. Oui, c'est ça, c'est un Jean-Pierre Proust qui... Alors, ça va me permettre de voir un petit peu aussi quelque chose qu'on va travailler pendant plusieurs séances. C'est le travail sur l'équation de recherche. Cette équation de recherche, je ne dirais pas qu'elle est aussi importante que votre mémoire, mais presque. Hein, c'est vraiment, ça doit être l'objet de tous vos soins. C'est avec cette équation que vous allez explorer les bases de données et trouver vos sources. Vous voyez, par exemple, là, il se révèle que Proust et photographie, c'est pas, ça donne ce qu'on appelle du bruit en documentation. Le bruit, ce sont des recherches que je n'attendais pas. J'en ai pas mal, là, quand même. Hein. Non, là, c'est en allemand, mais ça a l'air de correspondre. Non, il n'y a que celle-là, finalement, hein, qui soit vraiment... C'est parce qu'un des auteurs s'appelle Jean-Pierre Proust et qu'il s'agit bien de photographie. Alors, dans ces cas-là, ça arrive très souvent pour les écrivains. Vous êtes tous inégaux de ce point de vue-là. Quand on travaille sur Proust ou Camus, par exemple, c'est ennuyeux parce qu'il y a beaucoup d'homonymes. Si vous travaillez sur Voltaire ou sur Lautréamont, c'est parfait. Il n'y a qu'un seul personnage qui s'appelle comme ça. Pour Proust, ne serait-ce que parce qu'il y a son père, qu'on retrouve assez souvent dans les... Dans la bibliographie, on va être obligé de préciser. Alors, je vous montre ça, vous le connaissez peut-être par Google. On met des guillemets lorsqu'on veut une expression complète. C'est-à-dire que je vais taper Marcel Proust, entre guillemets, and photographie. Donc là, je suis sûr d'avoir des sources qui vont bien porter sur Marcel Proust. Alors, il y a quand même un inconvénient à ce genre de précision. C'est que je risquerais de perdre un livre qui s'appellerait « Proust et la photographie » et qui ne préciserait pas qu'il s'agit de Marcel Proust. Alors, ce défaut est un peu compensé par le fait que, généralement, dans la notice, il y a le nom de l'auteur en toutes lettres. Et donc, on va le retrouver sans doute de cette manière-là. Vous voyez que j'ai simplement, de cette manière-là, fait disparaître mon bruit de tout à l'heure. Donc, tout porte bien sur Marcel Proust. Vous pourrez, comme ça, en faisant des tests, affiner peu à peu. Par exemple, ici, le mot photographie est peut-être insuffisant. Il aurait fallu que je mette d'autres mots thématiques. Alors,
Même principe, c'est-à-dire vous allez mettre des parenthèses, mais cette fois-ci, on va utiliser le mot-clé or. Donc, il peut y avoir photographie, mais il peut y avoir aussi le mot en anglais, par exemple. Alors, photographie avec un Y. Mais je peux mettre aussi photo. Alors, pourquoi pas, ça me permettra de combiner.
Donc, vous voyez, petit à petit, vous allez affiner votre équation pour avoir les réponses les plus pertinentes possibles. Alors, j'ai pris volontairement un exemple très simple parce que, bon, en dehors de l'ambiguïté sur le nom de Marcel Proust, le mot photographie est assez univoque pour que je n'ai pas trop de problèmes. Mais pour tous ceux d'entre vous, par exemple, qui travaillent sur des thèmes, si vous travaillez sur, je ne sais pas, l'ironie chez un auteur, vous voyez que ça va être beaucoup plus compliqué parce que il va falloir trouver des livres qui désignent bien la tournure comme de l'ironie et pas avec un autre mot. Et c'est là que le travail sur l'équation de recherche devient un peu complexe parce qu'il faut que vous trouviez des synonymes, des expressions peut-être qui vont pointer. Donc petit à petit, ça va se faire en consultant également vos sources. Par exemple, je ne le revois plus ici, mais j'ai trouvé tout à l'heure dans les sources d'autres mots qui pouvaient m'intéresser. Si Proust a été en relation, par exemple, avec certains photographes de son époque, je peux rajouter leur nom. Vous voyez que ça va me permettre, là aussi, de faire des recoupements. Donc, cette élaboration de l'équation de recherche, elle se fait progressivement. Et il y a un moment où vous aurez une équation qui donne de bons résultats, enfin, qui vous donne des résultats assez pertinents. Je vous conseille de plutôt travailler sur des équations comme celle-là, même si elles paraissent un peu plus complexes, que de faire plusieurs requêtes. Parce que j'aurais pu aussi chercher Marcel Proust et photographie, Marcel Proust and photo, Marcel Proust and photographe, etc. Il vaut mieux les regrouper dans une seule expression, comme ça vous faites une seule requête et ça vous donne tous les résultats immédiatement. Alors, je reviens sur ces ouvrages que j'ai trouvés ici. Un mot d'abord, puisqu'on a l'exemple ici, sur les langues, parce que j'ai souvent des questions là-dessus. Vous devez vous servir de toutes les sources disponibles. Je pense en particulier à l'anglais. Vous ne pouvez pas ignorer. On le regrette ou on s'en félicite, mais c'est une langue de travail scientifique aujourd'hui, y compris dans le domaine des études littéraires. Et il y a beaucoup d'études qui sont publiées sur les auteurs de langue française, qui sont publiées en anglais par des chercheurs anglophones, et on ne peut pas les ignorer. La question va se poser pour les autres langues. Vous voyez qu'on a vu apparaître de l'allemand. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Non, c'est voilà, allemand et anglais. Personnellement, je ne lis pas l'allemand. Il faut quand même que je m'y intéresse. On a aujourd'hui des outils qui permettent au moins de savoir de quoi il s'agit. Je vous montre l'exemple pour cette source en allemand. Voilà, vous voyez dans les fiches qui sont remplies par les bibliothécaires, alors il y a bien entendu le titre en allemand là-haut, mais vous avez aussi un certain nombre de sujets, c'est-à-dire de mots-clés, qui vous permettent quand même de savoir de quoi il s'agit. Et je vois bien photographie dans la littérature, littérature et photographie, etc. Donc ça veut dire que c'est un livre qui peut m'intéresser. Alors, je reprends cet exemple, je ne lis pas l'allemand. Donc comment faire ? Première... solution, si vous avez accès au moins à quelques passages numériques de ce livre, c'est d'utiliser les traducteurs automatiques. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le traducteur de Google, par exemple, hein, il y en a de plus en plus. Ils sont de plus en plus perfectionnés. Alors, le résultat est assez improbable, souvent, mais ça vous permet au moins de savoir de quoi il s'agit. C'est ça qui est important. De quoi il s'agit, c'est-à-dire, est-ce que c'est un livre qui peut vous intéresser ? Autre piste, allez vérifier s'il n'y a pas une traduction de ce travail. Il date de quand le travail ? 2013, oui, c'est un peu récent. Mais on va quand même cliquer sur le nom de l'auteur. Voilà, non, il n'a écrit et publié qu'en allemand. Elle n'a écrit et... non, Johann, c'est quoi ? C'est masculin ou féminin, Johann ? Je ne sais pas. Bon, bref, vous voyez, je suis vraiment incapable de lire de l'allemand, même les prénoms.
Voilà, c'est une thèse, hein, dissertation dans ce sens-là, c'est une thèse qui a été publiée sur ce sujet. Même si vous ne lisez pas la langue, il y a quand même une partie de la thèse qui peut être lisible, c'est la bibliographie. Donc la bibliographie, ça peut éventuellement être utile de regarder ce que l'auteur a mis dans sa bibliographie. Alors pour le reste, imaginons que vous vérifiez que cette thèse est vraiment incontournable pour vous, il y a la possibilité de trouver quelqu'un de votre connaissance qui lit l'allemand et qui pourrait vous aider à déchiffrer au moins le texte. Ah, mais bon. Alors, je prends volontairement un exemple un peu extrême, c'est-à-dire vraiment une langue que vous ne connaissez pas du tout et sur un sujet qui pourrait vous intéresser. Lorsqu'il y a des langues que vous maîtrisez, en revanche, n'hésitez pas à prolonger la requête dans ce domaine. C'est pour ça, par exemple, que j'ai mis le mot photographie en anglais dans ma requête tout à l'heure. Mais, je ne sais pas, dans mon cas, c'est l'italien. Dans votre cas, ce sera peut-être d'autres langues européennes ou non européennes. N'hésitez pas à faire la requête également dans d'autres langues parce que vous pouvez avoir des sources qui vous sont utiles. Ah, donc, voilà pour la question des langues. Vous ne pouvez pas ignorer simplement en disant je ne lis pas la langue, donc ça n'existe pas. Hein. Il faut que vous, au moins que vous ayez identifié la source. Le cas échéant, rien ne vous empêche dans votre mémoire de signaler dans une note, par exemple, qu'il y a une thèse en allemand sur votre sujet, mais que vous n'avez pas pu en prendre connaissance. Alors ça arrive pour des questions de langue, ça arrive aussi, suivant votre sujet, pour des ouvrages qu'on n'arrive pas à trouver. Parce que c'est aussi... quelque chose qui se passe de plus en plus. Encore une fois, les outils numériques sont de plus en plus performants. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ce programme de Google. Loin de moi l'idée de faire de la publicité, hein, ça existe, je crois, chez Apple également. Mais vous avez même la possibilité actuellement à Google Traduction de photographier un texte et Google le scanne, le transforme en texte donc dans la langue d'origine et vous le traduit. Donc, vous voyez, on a maintenant quelques outils qui vous permettent au moins de faire un repérage. Alors, évidemment, ces traductions sont encore un peu approximatives, etc. Je vous disais tout à l'heure, vérifiez si vous trouvez l'ouvrage en version numérique. Vous pouvez en particulier le trouver chez Google encore. On devrait être corriche. Vous voyez, je vais rechercher ainsi le titre et je vais aller sur Google Livres, dont on va avoir l'occasion de reparler, hein, parce que c'est une source très, très importante aussi. Voilà, et je vais voir si par hasard le livre ne se trouve pas. Voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai un aperçu, ce qui veut dire que, voilà, vous voyez, vous allez pouvoir consulter, vous connaissez le principe de l'aperçu, hein, peut-être déjà sur Google Livres, vous allez pouvoir consulter la table des matières. Alors pareil, on va essayer de jouer aux devinettes hein, si on ne connaît pas la langue. Mais également, voilà, quelques pages. Alors, pour... Donc, voilà comment vous pouvez le feuilleter. Je vous parlais tout à l'heure de la bibliographie. Je pense qu'elle est... Au moins, c'est une partie qui n'a pas été rajoutée. Vous avez, voilà. Alors, le principe de Google Livres, c'est que les livres qui ne sont pas dans le domaine public, donc comme celui-ci, un livre récent, n'est disponible que par extrait. Mais dans un grand nombre de cas, ça va vous permettre quand même de savoir au moins de quoi il s'agit à l'intérieur du livre. Il n'y a pas... Et puis, vous pouvez l'acheter, évidemment. Ça, c'est un site marchand. Je reviens à Sudoc. Un des gros avantages de Sudoc, donc en dehors du fait que c'est un gros catalogue de bibliothèques et qu'on y trouve l'essentiel, je dirais, des ouvrages scientifiques, c'est que vous pouvez savoir où trouver le document. Vous voyez la rubrique là-haut, où trouver ce document. Quand vous cliquez là-dessus, on va vous donner la liste des bibliothèques. Ça va aller vite dans ce cas-là. Qui ont ce livre en magasin. Donc là, par exemple, le livre est à la bibliothèque de la Sorbonne.
Donc, si vous voulez le consulter, vous pouvez aller à la bibliothèque de la Sorbonne et en demander la communication. Pour chaque bibliothèque, il y a une petite fiche qui vous indique comment fonctionne la bibliothèque. Alors, on nous indique aussi un sigle qui est intéressant. Certains d'entre vous doivent déjà le connaître, PEB, prêt entre bibliothèques. Vous pouvez aussi commander un livre et le faire venir à Paris 3 pour pouvoir l'emprunter comme si c'était un livre de Paris 3. Alors, lorsque c'est la bibliothèque de la Sorbonne, c'est peut-être pas indispensable, à moins que vous vouliez le lire intégralement. Mais si vous voulez simplement l'emprunter, vous pouvez vous déplacer. Mais vous pouvez donc vous adresser à la bibliothèque de Paris 3 en disant « Je voudrais commander ce livre, on vous le fait venir. » Ça prend. Il y en a qui ont déjà fait le prêt de bibliothèque ? Oui ? Vous pouvez dire combien de temps ça a pris ?
Je pense une bonne semaine.
Une bonne semaine, hein, voilà, oui. Une semaine, et ensuite vous l'avez emprunté pour le temps habituel de... Ah, il fallait la consulter sur place, d'accord. Bon. Mais ça vous a évité. Elle était où, origine ?
Je crois qu'elle était à Toulouse.
À Toulouse, d'accord, voilà. C'est surtout pour les thèses qui sont en province. Vous connaissez le principe des thèses. Il y en a un exemplaire obligatoirement dans l'université où la thèse a été soutenue. Donc c'est pour ça que c'est utile parfois de le faire venir. De plus en plus, les thèses sont numérisées et sont disponibles en ligne. Donc ça, c'est évidemment l'idéal. Mais pour des thèses un peu plus anciennes, on peut les faire venir. Et en tout cas, vous avez la liste des bibliothèques où se trouve un ouvrage. Donc ça, c'est très utile dans Sudoc. C'est pour ça qu'il a été fait, je dirais, d'une certaine manière. C'est un catalogue des catalogues de bibliothèques. Et vous savez dans quelle bibliothèque vous pouvez le trouver. Le bouton disponibilité vous permet de savoir si par hasard le livre n'est pas sorti. Et vous êtes connecté directement là sur le catalogue de la bibliothèque de la Sorbonne. Il est disponible et vous avez même les modalités de communication. Il faut aller à l'étage 5, etc. Enfin bon, la cote, enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir l'emprunter à ce moment-là. Ah, donc, Sudoc, on va le voir, c'est un catalogue de bibliothèque comme d'autres catalogues. Mais il a surtout cette particularité, c'est qu'il vous signale dans quelle bibliothèque il se trouve. Alors, suivant les bibliothèques, les modalités d'accès sont un peu différentes. Vous avez ici... Est-ce qu'il y a une fiche ? Non, ça c'est juste une carte. Il y a parfois une fiche qui vous indique comment on peut accéder à cette bibliothèque. Mais donc, dans ce cas-là, on vous renvoie... Ah oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, vous avez ici la fiche de la bibliothèque avec les conditions d'accès. Hein, conditions d'accès. Accès réservé aux étudiants des universités de Paris 1, 3, ça tombe bien, 4, 5, 7, etc. à partir du niveau L3, enfin voilà. Vous avez toutes les conditions. Certaines bibliothèques, évidemment, sont un peu plus difficiles d'accès. Je pense à des bibliothèques, il y en a quelques-unes dans Sudoc, des bibliothèques d'entreprise. Ou des bibliothèques de centres de recherche. Pour lesquels il y a, je sais pas, 2 jours d'ouverture dans la semaine. Enfin voilà. Donc vérifiez avant si vous ne connaissez pas la bibliothèque. Vous avez toutes les coordonnées pour les contacter éventuellement si ça se révèle un peu plus difficile. Hein, voilà donc pour le Sudoc. Alors on va regarder ensuite les notices. Je vais revenir. Alors, attends. À mes résultats. Je vais prendre un livre en français cette fois-ci, ça sera voilà, le fameux Proust sous l'emprise de la photographie, pour voir un peu ce qu'on trouve dans un catalogue de bibliothèque. Les rubriques que vous voyez ici, titre, auteur, date, langue, éditeur, etc., ce sont les rubriques bibliographiques, celles que vous allez retrouver dans votre propre bibliographie. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec ces différentes rubriques qu'on va trouver donc, dans tous les catalogues de bibliothèque et dans toutes les références bibliographiques. Il y a des notions qui paraissent simples, mais qui ne le sont pas toujours finalement. La notion d'auteur, par exemple. Hein, l'auteur d'un ouvrage. Ici, vous voyez que c'est Brassailles. Brassailles est un photographe. Donc, il a été crédité comme auteur. L'auteur ici, enfin, toutes les informations que vous avez ici sont généralement prélevées sur la page de titre d'un ouvrage. Ce qu'on met dans une notice bibliographique, c'est l'auteur tel qu'il se présente dans la page de titre. Il y a toutes sortes de cas particuliers que vous imaginez, les livres collectifs par exemple. Ça arrive très souvent en recherche. Le livre est écrit par une dizaine de personnes, donc on ne va pas mettre forcément tous les noms sur la première page. On va mettre que le nom de la personne qui a dirigé l'ouvrage. C'est le problème des pseudonymes aussi. Je ne sais pas si Brassailles est un pseudonyme. On va cliquer dessus. Non, j'ai l'impression qu'on a toujours le même nom pour Brassailles. En tout cas, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, on l'a identifié ici avec ses dates biographiques, hein, naissance et décès, de cette manière-là. Identifier les auteurs des livres, c'est un travail spécifique pour les bibliothécaires. À la Bibliothèque nationale, qu'on ira voir tout à l'heure, vous avez un catalogue, une liste, ce qu'on appelle d'autorité, autorité au sens d'auteur. C'est-à-dire que les bibliothécaires de la BNF essayent d'identifier de manière univoque chacun des auteurs des livres qu'ils conservent. Ce n'est pas toujours simple. En dehors des cas que je vous ai cités, il y a celui des ouvrages anonymes. Il y en a un très grand nombre. Ou des ouvrages qui sont publiés comme anonymes, mais dont on connaît l'auteur en réalité. Princesse de Clèves, hein, pour prendre un exemple ultra connu. Donc le travail des bibliothécaires est aussi d'identifier les auteurs réels. Donc souvent on a le nom de l'auteur avec son nom de plume ou l'indication anonyme, mais les bibliothécaires ont rajouté aussi le nom réel. Donc ça va être important. Pour vous, pour votre bibliographie, vous allez suivre l'usage des bibliothécaires, c'est-à-dire reprendre les indications telles qu'ils les ont fait figurer dans la notice. Et là, l'ouvrage, donc, c'est un ouvrage de Brassailles qui a été identifié comme auteur. La question du titre aussi peut parfois poser toutes sortes de problèmes, d'autant plus que les bibliothécaires ont l'habitude d'intégrer dans le titre des indications supplémentaires. Par exemple, ici, vous avez « texte imprimé » entre crochets. Un texte imprimé. Évidemment, « texte imprimé » ne fait pas partie de ce qu'on trouve sur l'ouvrage. Ce sont eux qui l'ont rajouté pour indiquer qu'il s'agit d'un texte imprimé, pas d'un manuscrit. La question de la date aussi est parfois un peu épineuse. On verra quelques cas particuliers. Donc la date, c'est la date à laquelle le livre a été publié. Vous savez que sur certains livres, on précise aussi la date d'impression, mais c'est la date de publication qui est importante. Donc cette date, on la trouve normalement au dos de la page de titre, sous forme d'un copyright, dans certains cas, parfois sous une autre forme, mais c'est un travail en soi que de chercher la date de publication d'un livre. Alors, pour les livres contemporains, c'est pas très compliqué, mais vous imaginez que pour des ouvrages du 16e, 17e, 18e siècle, c'est un vrai travail bibliographique qu'effectuent certains bibliothécaires spécialisés qui peuvent recouper. Retenez quand même le principe de ces crochets droits. On les utilise dans une bibliographie chaque fois que vous rajoutez une indication qui ne figure pas sur l'ouvrage. Par exemple, vous écrivez le nom d'un auteur tel qu'il figure sur l'ouvrage, le pseudonyme qui figure sur l'ouvrage, et entre crochets, vous mettez son nom réel, parce que c'est une information que vous ajoutez. Vous mettez la date à laquelle a été imprimé le livre de poche sur lequel vous allez travailler, et entre crochets, vous mettez la date de publication originale de l'œuvre sur laquelle vous travaillez. Si ça vous semble pertinent, hein, mais on le fait assez souvent, parce que c'est pour ne pas donner l'impression que les pièces de Corneille ont été écrites au 20e ou 21e siècle. On écrit entre crochets la date originale de création de la pièce, par exemple. Donc tout ce que vous rajoutez, vous le mettez entre crochets droits de cette manière-là, comme le font ici les bibliothécaires. Alors la notion d'éditeur aussi n'est pas toujours très, très simple. Je ne parle pas de ceux qui confondent imprimeur et éditeur, mais l'éditeur, c'est l'éditeur commercial. C'est-à-dire c'est celui qui a sélectionné le manuscrit, qui l'a préparé, mis en page, imprimé, distribué, diffusé, etc. Donc Gallimard, par exemple, en l'occurrence. Distinguez bien, par exemple, on en verra d'autres exemples, l'éditeur et la collection. Un cas très courant, c'est la bibliothèque de la Pléiade. La bibliothèque de la Pléiade, c'est une collection de Gallimard. Donc l'éditeur, c'est Gallimard, et la bibliothèque de la Pléiade, c'est une collection. De même que Gallimard a une autre collection qui s'appelle Folio, en livre de poche, mais les ouvrages sont publiés par Gallimard, hein, dans ce cas-là. On indique très souvent aussi, vous le savez, la ville de publication. Alors, dans notre cas, c'est très souvent Paris, pour des raisons que vous connaissez, hein, la centralisation extrême des institutions culturelles en France et le fait que, pour travailler sur la littérature de langue française, on va très souvent être amené à lire des ouvrages publiés en France. Vous pouvez éventuellement mettre une petite note au début de votre bibliographie disant « Par défaut, les ouvrages sont publiés à Paris ». Ou alors vous allez chaque fois écrire comme ici le nom de la ville devant le nom de l'éditeur. Tout le reste, ce sont des indications qui généralement ne figurent pas dans les bibliographies de vos mémoires. Alors le nombre de pages, on peut le mettre dans un mémoire, c'est une précision. Simplement, pour toutes ces indications-là, si vous le faites, il va falloir le faire pour toutes vos références. Donc c'est un assez gros travail. C'est intéressant parce que ça vous donne tout de suite une idée du volume du livre que vous citez. Est-ce que c'est une toute petite plaquette, un très gros volume? Bon, ça donne cette indication-là. De même que les bibliothécaires précisent même la taille du livre, le fait qu'il y ait une jaquette illustrée. Précise aussi alors ce numéro qui est l'ISBN, qui est très commode en bibliographie parce qu'il identifie une édition de manière unique. L'avantage, c'est que quand vous trouvez un ISBN comme ça, vous pouvez le rechercher dans n'importe quel catalogue et vous allez tomber sur le même ouvrage, forcément. Y compris si l'ouvrage a eu plusieurs rééditions sur cette édition-là, précisément. Ah, donc le numéro ISBN peut être utile. Mais c'est la même chose. Vous n'allez pas le faire figurer dans votre bibliographie parce que sinon, il va falloir le mettre pour toutes les références et ça va être un peu trop long à mettre. Alors, autre rubrique intéressante dans les catalogues de bibliothèques, c'est cette liste de sujets qu'on voyait tout à l'heure. Il faut être conscient que c'est le résultat d'une analyse humaine. C'est-à-dire, c'est un bibliothécaire qui a fait ce qu'on appelle l'indexation du volume, c'est-à-dire qui a rattaché le sujet du livre à des thèmes qui sont déjà préétablis. Donc, le bibliothécaire dispose de ce qu'on appelle un thésaurus. C'est une liste de tous les termes qui permettent de désigner des sujets, du genre Proust, Marcel, etc., critique et interprétation, Brassailles, perception visuelle dans la littérature, etc. Là, on a combiné, vous voyez, deux sujets. Donc, c'est un langage, un langage documentaire qui permet de décrire le contenu d'un livre. J'insistais sur le fait que c'est un travail humain parce qu'il est sujet à des erreurs, à des oublis, à des interprétations un peu trop rapides. Là, dans ce cas-là, vous voyez, c'est assez simple. Hein, Marcel Proust sous l'emprise de la photographie. Donc, on a codé avec des mots-clés qui se réfèrent à Proust et d'autres qui se réfèrent à la photographie. Mais il y a aussi ceci, par une perception visuelle dans la littérature, hein, qui peut être intéressant. Alors... dans la plupart des catalogues numériques, vous avez la possibilité de rebondir. Oui, si je clique là-dessus. Ah oui, j'ai seulement dans la littérature et pas... Il faudrait que je mette les deux. Je vais prendre perception visuelle plutôt. Ça sera peut-être... Voilà, donc ça, c'est tous les ouvrages qui ont été indexés de la même manière avec le mot-clé perception visuelle. Et j'en ai ici la liste complète. Ça me permet éventuellement de trouver d'autres ouvrages qui pourraient avoir un rapport. Une petite remarque, tous les ouvrages ne sont pas indexés de cette manière. Ce sont seulement les ouvrages les plus récents. Donc quand vous avez des ouvrages plus anciens, vous ne pourrez pas y accéder de cette manière-là par les sujets. Mais ça peut être très utile dans certains cas. Je vais avoir en particulier ici tous les livres qui parlent de Proust. On a de la chance, il y en a seulement 2586, donc ça donne une idée un peu de la bibliographie d'un auteur. Alors, livre de Proust, sur Proust, enfin, etc., hein, c'est les sujets. Les sujets, vous pouvez le préciser ici dans la recherche. Jusqu'à maintenant, on a fait une recherche sur tous les mots de la notice, hein, tout ce qu'on vient de voir. Vous pouvez préciser dans quel champ vous voulez chercher plus particulièrement. Vous voyez la différence entre...
je vais prendre Marcel Proust, entre une recherche sur Marcel Proust dans les mots auteurs.
Donc là, j'ai mis le résultat avec les œuvres de Marcel Proust. Vous voyez, le nom de Marcel Proust apparaît dans l'auteur.
Et puis les ouvrages sur Marcel Proust. Cette fois-ci, je vais prendre un mot sujet. Un mot sujet, ça veut dire que je vais retrouver, j'en ai 1700 ici, sont les livres qui parlent sur Marcel Proust.
Donc, à un moment donné, un bibliothécaire a indexé ses ouvrages en disant cet ouvrage parle de Marcel Proust. Donc voilà, ça nous permet de nous guider vers un certain nombre d'ouvrages.
Encore une fois, je n'aurai pas les ouvrages les plus anciens, mais pour l'avantage, c'est qu'on a les ouvrages les plus récents ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres rubriques. Vous pouvez chercher, par exemple, sur les éditeurs aussi, hein, pourquoi pas, les ouvrages publiés par un éditeur donné. Si vous faites par exemple l'historique d'une publication, enfin d'un ouvrage particulier, ça vous permet de savoir ce que l'éditeur a publié la même année ou enfin dans les années où il a publié l'ouvrage de votre auteur. Ça peut être intéressant, mais voilà, il y a beaucoup de rubriques spécifiques hein, que vous allez retrouver de cette manière-là. Et chaque fois, vous pouvez faire la requête de cette manière-là. Quand vous avez trop de réponses comme ça, 1757, vous pouvez affiner la recherche avec ces rubriques ici. Vous voyez, par exemple, le type de publication va me permettre de spécifier. Alors, ce sont des livres essentiellement, mais il y a 170 thèses, par exemple. Donc, je pourrais ne demander que les thèses. Voilà, j'ai plus que 170 résultats. Ce sont toutes les thèses qui portent sur Marcel Proust. Et là, j'ai un type de document un petit peu particulier. De la même manière, vous pouvez aussi spécifier la langue de publication, le pays de publication. Voilà, dans notre cas, c'est généralement la France et le français, hein, mais vous pouvez préciser de cette manière-là.
Voilà, j'ai été un peu long sur ce catalogue-là, d'abord parce qu'il est vraiment très important pour nous, c'est un outil irremplaçable dans le domaine universitaire, mais également parce que tous les catalogues de bibliothèques fonctionnent à peu près comme celui-là, ça va me permettre d'aller plus vite sur d'autres catalogues que je vais vous présenter. J'indiquerai simplement chaque fois quelles sont les spécificités des autres catalogues.
Autre catalogue très important, c'est celui de la BNF. Donc, deux mots là-dessus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés à la BNF l'année dernière pour consulter ? Oui, plusieurs. Voilà. C'était des ouvrages que vous n'aviez pas trouvés ailleurs. Voilà, oui.
Donc, en étant en master, vous avez la possibilité hein, d'accéder à la BNF dans les salles pour les chercheurs. Vous savez qu'il y a deux niveaux à la BNF, ce qu'on appelle le haut de jardin, qui est un accès public, et puis le rez-de-jardin, qui est réservé aux chercheurs. Simplement, pour y aller, il faut que vous fassiez établir une autorisation par votre directeur, directrice de recherche, qui va faire un papier disant que vous cherchez un ouvrage que vous ne pouvez pas trouver ailleurs et pour lequel il faut que vous accédiez à la BNF. C'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre l'accès à la BNF. On y va quand on ne peut pas faire autrement. Donc vous avez regardé dans Sudoc, rien de disponible. Vous avez vérifié si l'ouvrage pouvait être disponible de manière numérique à distance. Bon, aucun accès possible. Donc il va falloir aller à la BNF. Donc dans ce cas-là, il y a toute une procédure, hein, vous verrez ça sur le site, il faut s'inscrire, on rencontre un bibliothécaire à qui on explique encore une fois pourquoi on a besoin d'aller à la BNF. Ensuite, ce n'est pas gratuit au passage, on paye chaque consultation, enfin ce n'est pas ruineux, mais enfin pour le principe c'est toujours un peu désagréable. Il faut prendre rendez-vous à l'avance. C'est-à-dire avec le site web, vous dites « je voudrais aller à la bibliothèque tel jour à telle heure » et on réserve déjà votre place. Et ensuite, quand vous êtes à la bibliothèque, il faut commander le livre à un magasinier qui va le chercher et qui vous attendez, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, suivant le cas, que le livre arrive. Si tout ça, c'est pour constater que le livre ne vous intéresse pas, enfin, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est beaucoup de temps perdu. Donc vraiment, la BNF en dernier recours, mais il ne faut quand même pas négliger ce recours. La BNF, comme Bibliothèque nationale, reçoit le dépôt légal. C'est-à-dire que tous les livres publiés en France ont au moins un exemplaire à la BNF. C'est ça qui en fait une bibliothèque incontournable. Les bibliothèques universitaires n'ont pas cette fonction. Hein, c'est-à-dire les bibliothèques achètent des livres qui semblent intéressants pour les étudiants et pour les chercheurs. Là, tous les livres sont déposés obligatoirement à la BNF. Ce qui veut dire que vous avez non seulement tous les ouvrages publiés en ce moment, mais dans les périodes passées, puisque le dépôt légal existe depuis le Moyen-Âge pratiquement. Hein. C'est Charles V qui a créé la BNF. Ensuite, le dépôt légal a servi à la censure. Vous savez que sous l'Ancien Régime, les livres étaient vérifiés, censurés. Donc, on n'approuve pas le procédé, mais ce qui est bien intéressant, c'est que du coup, on a tous les livres qui ont été publiés, y compris sous l'Ancien Régime. Et depuis le 19e siècle, donc, il y a ce mécanisme de dépôt légal. Un éditeur, pour pouvoir avoir le fameux numéro ISBN qu'on a vu tout à l'heure, doit déclarer la publication à la bibliothèque et verser plusieurs exemplaires de son livre à la BNF. Je dis plusieurs parce que la BNF en garde un et en donne à d'autres établissements. Par exemple, la BPI a le dépôt légal aussi. La bibliothèque de Beaubourg a le dépôt légal. Ils s'en servent aussi pour faire des échanges avec des bibliothèques nationales d'autres pays pour avoir aussi des livres dans d'autres langues à la BNF. Alors, le résultat, c'est une bibliothèque dans laquelle il y a à peu près aujourd'hui 12 millions d'ouvrages et donc la totalité de ce qui se publie en France, beaucoup aussi de manuscrits. La Bibliothèque nationale, c'est également des sources qu'on connaît un peu moins, mais ce sont des périodiques, donc des journaux, par certains très anciens qui sont conservés, des illustrations aussi, des images, de plus en plus de documents électroniques. Les jeux vidéo, par exemple, sont déposés à la BNF, ainsi que tous les livres publiés au format numérique aujourd'hui par les éditeurs. Donc c'est un fonds qui va se développer. Il y a des photographies à la BNF, etc. Donc c'est une ressource évidemment tout à fait incomparable. La BNF, alors ça c'est l'accès physique, a surtout un catalogue en ligne, hein, ce qu'on appelle le catalogue général de la Bibliothèque nationale, qui est là pour le coup je vois pourquoi ça. Bon, je vais taper le catalogue ici. Catalogue général. Donc, est un catalogue qui a l'avantage que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire que vous y trouvez tout ce qui s'est publié en France. Et un peu plus loin même, puisqu'il y a des ouvrages aussi publiés dans d'autres pays. Donc ça, c'est évidemment très, très utile. C'est également le catalogue de référence de toutes les bibliothèques françaises. C'est-à-dire que la notice de la BNF est la notice sur laquelle on fonde tous les catalogues de toutes les bibliothèques françaises, que ce soit des petites bibliothèques municipales jusqu'à des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées, etc. Alors, je vais reprendre toujours mon... Je vais copier-coller d'ailleurs. Je vais reprendre mon équation pour la réutiliser. Donc voilà les réponses. Alors le principe est à peu près le même. Tiens, il y a encore de l'allemand là qui néerlandais. Je vais avancer un petit peu pour avoir une notice typique. Voilà, je vais prendre celui-ci par exemple, le répertoire des thèmes de Marcel Proust. Donc voilà comment se présentent les notices. Ah, c'est un volume des cahiers Marcel Proust, ça s'appelle Répertoire des thèmes de Marcel Proust. On retrouve les mêmes rubriques, hein, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, avec le même principe pour rebondir, c'est-à-dire si ce chercheur travaille dans votre domaine, ça peut être intéressant de voir tout ce qu'il a publié. Même chose pour les thèses d'ailleurs, hein, je vous signale, lorsque vous repérez une thèse sur un sujet qui vous intéresse, vérifiez si l'auteur de la thèse n'a pas publié autre chose, parce que ça peut être aussi une manière de découvrir des sources. Généralement, les chercheurs sont assez monomaniaques et travaillent au moins pendant une partie de leur vie sur les mêmes sujets, donc ça peut vous permettre aussi de découvrir d'autres, d'autres choses. Voilà, pour le reste, on a déjà vu comment se présentent les notices. Vous avez des outils ici qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez vous envoyer par mail la notice bibliographique. Vous pouvez l'imprimer, la télécharger sous une forme. Et puis, vous avez voilà, la référence à la Bibliothèque nationale. En l'occurrence, vous voyez, je vous parlais de la Bibliothèque de l'Arsenal tout à l'heure. La Bibliothèque de l'Arsenal fait partie de la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est là que vous le trouverez avec cette cote. Voilà. Et vous pouvez, de cette manière-là, en savoir un peu plus, et y compris le commander si vous êtes... identifié. Vous voyez, vous avez là-haut un espace personnel, et une fois que vous avez créé votre compte, enfin que vous avez une carte d'entrée à la bibliothèque, vous pouvez répertorier ici un certain nombre de choses. Ce que je voulais vous montrer, c'est une fonctionnalité qu'on va trouver dans d'autres catalogues, on l'a vu rapidement sur le Sudoc, ce sont les recherches avancées qui vous permettent de chercher par rubrique, vous voyez. Donc, on cherche des mots dans la notice ou bien dans une partie de la notice, ça on l'a déjà vu, par exemple dans l'auteur. Et vous avez un nombre de catégories qui est un petit peu plus affiné peut-être que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, par langue, par pays, on l'a déjà vu, par date de publication. Voilà, je voudrais savoir ce qui s'est écrit sur Proust. L'année de l'anniversaire de sa naissance, c'est-à-dire en 1971, du centenaire voilà, de sa naissance. Voilà. La différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que, encore une fois, c'est un catalogue exhaustif. Donc vous aurez là tout ce qui a été publié, puisque ça a été mis au dépôt légal. Et donc là, vous aurez donc, tous les livres, il y en a combien ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu le nombre total. 19 à vérifier donc tout ce qui a été écrit cette année-là avec Proust dans le nom de ah oui de l'auteur seulement donc ce sont les œuvres de Marcel Proust non c'est un sujet non c'est ce qui a été indexé comme sujet le biais là c'est peut-être qu'en 71 il n'y avait pas encore d'indexation par sujet donc les ouvrages de cette date-là n'ont peut-être pas été indexés mais voilà c'est un exemple un peu rapide, mais vous pouvez aussi utiliser la bibliothèque, le catalogue de la bibliothèque pour faire ce genre de recherche, et pas seulement chercher un livre que vous connaissez déjà. Donc les sujets que vous allez retrouver ici, souvent ils sont un peu moins développés que sur le catalogue du Sudoc, parce que le Sudoc a été fait par des bibliothécaires rattachés à des universités ou à des centres de recherche, et ils font souvent une indexation un peu plus approfondie, disons, mais... vous allez quand même trouver pas mal de choses ici. Pendant qu'on est à la BNF, si je peux dire, dans le catalogue BNF, je vais dire un mot de Gallica, que vous connaissez aussi sans doute. Gallica, c'est le catalogue numérique de la BNF. C'est-à-dire que la BNF a entrepris depuis maintenant pas mal d'années de numériser un certain nombre des ouvrages qu'il conserve et de les proposer à la lecture à distance, pour qu'on ne soit pas obligé justement d'aller à la bibliothèque chaque fois qu'on veut consulter un ouvrage.
Vous avez peut-être vu tout à l'heure que quand on fait une recherche, alors je vais revenir à la recherche standard, on vous propose de préciser par exemple ce qui est disponible sur Gallica. Alors je vais retaper quelque chose très rapidement. Voilà, donc c'est une partie de ce que j'aurais trouvé dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, mais les ouvrages qui sont là sont plutôt les ouvrages du père de Proust, hein, d'Adrien Proust, mais peu importe. Ce sont des ouvrages auxquels vous avez accès directement de chez vous. Le site Gallica est ouvert. Donc le gros avantage ici, c'est que l'ouvrage en question... Donc, c'est un ouvrage qui existe dans les rayons de la BNF, mais que vous allez pouvoir regarder directement. Alors, je vais y accéder comme ceci. Consulter en ligne, voilà. Je suis connecté sur Gallica. Voilà, et c'est l'ouvrage que je peux consulter. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous ont utilisé Gallica. Ceux d'entre vous qui travaillaient sur le 19e siècle, c'est une base de données rêvée, évidemment, parce que vous allez y trouver pratiquement toute la production de l'époque. Pour les 20e-istes, et je ne parle même pas des 21e-istes, c'est un peu plus compliqué parce que Gallica ne montre que des œuvres qui sont dans le domaine public. Et donc des œuvres un peu anciennes déjà, puisque pour être dans le domaine public en France, une œuvre doit avoir un auteur qui est mort depuis plus de 70 ans. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, enfin cette année, sont tombées dans le domaine public des œuvres d'auteurs morts en 1947. Donc vous voyez, ça limite, pour le 20e siècle et 21e siècle, évidemment, ça limite énormément les disponibilités de Gallica. Mais pour les 19e-istes ou pour ceux qui travaillent sur le premier 20e siècle, c'est évidemment une mine d'ouvrages, puisque les ouvrages sont disponibles, comme vous le voyez, intégralement. L'avantage de Gallica, c'est que l'ouvrage est consultable, vous voyez, dans la typographie d'origine, mais que vous pouvez quand même faire des recherches à l'intérieur du texte. Ici, là, avec la petite loupe qui est là, vous pouvez chercher, je ne sais pas, chercher le mot folie, par exemple. Voilà, et vous avez donc toutes les pages où le mot se trouve, là, dans ce livre, et en cliquant dessus, vous êtes reporté ceci. Voilà. Le mot est indiqué, mais vous pouvez le lire dans la typographie d'époque. Chaque fois que vous avez des problématiques de mise en page, par exemple, d'illustration aussi, c'est très utile de pouvoir le faire de cette manière-là. Alors, pourquoi je vous montre ces deux choses-là? Parce que vraiment, à l'heure actuelle, on est entre deux mondes, hein, du point de vue de la bibliographie, et j'y reviendrai souvent. On est entre l'univers du papier, qui est encore très, très présent, évidemment. La bibliothèque, je vous dis, conserve 12 millions de volumes papier sur des étagères qui s'étendent toutes les années. En France, on publie 70 000 titres nouveaux chaque année. Donc les bibliothèques s'élargissent d'autant. Mais on est déjà dans le monde du numérique, c'est-à-dire qu'une partie de la bibliothèque est accessible à distance, c'est-à-dire que le catalogue lui-même est à distance et que vous pouvez au moins savoir si les livres se trouvent à la bibliothèque et que vous trouvez des services donc comme Gallica ou comme Google Livres qui vous permettent de regarder à l'intérieur des livres, même si c'est assez frustrant parfois, ça vous permet seulement de savoir que le livre est intéressant et qu'il faut ensuite se déplacer dans une bibliothèque physique pour consulter l'ouvrage sur papier. Hein, mais encore une fois, on est vraiment dans une époque de mutation de ce point de vue-là et il faut jouer dans les deux mondes. Par exemple, pour chercher donc des livres intéressants pour votre bibliographie, je vous ai montré la technique numérique. Donc on va sur une base de données, on tape des mots-clés. Mais il y a aussi la technique manuelle, du papier, traditionnelle, qui est tout aussi valable. C'est-à-dire trouver un ouvrage qui porte sur votre sujet, dépouiller sa bibliographie, qui va vous renvoyer vers d'autres ouvrages, et ainsi de suite. Alors c'est une technique qui a une limite, c'est que forcément c'est toujours plus ancien. Donc, par définition, les bibliographies ne peuvent pas signaler des ouvrages futurs, donc ça vous fait reculer sans arrêt. Mais si vous trouvez, par exemple, un ouvrage récent sur votre auteur ou votre thématique, vous pouvez regarder sa bibliographie et ça va vous indiquer d'autres ouvrages qui portent sur votre sujet. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle, celle qui va de livre en livre. Ou alors celle que je vous indiquais tout à l'heure, d'aller voir un rayonnage de bibliothèques triés par sujet et de feuilleter les livres qui se trouvent là. Il faut vraiment jouer sur les deux tableaux à l'heure actuelle et les formats numériques, évidemment, sont intéressants. Ils le sont d'autant plus qu'ils sont de plus en plus présents et de plus en plus perfectionnés. C'est-à-dire que, par exemple, la reconnaissance des caractères qui permet de faire de la recherche est de plus en plus perfectionnée. Et on peut maintenant chercher des mots comme ça dans tout l'ensemble de Gallica. Un jour, pas si éloigné finalement, l'ensemble de la Bibliothèque nationale sera numérisé, vous pourrez consulter de chez vous et rechercher surtout un mot à l'intérieur de tous ces ouvrages. Ça va être la grosse différence par rapport au catalogue de bibliothèque. Le catalogue, c'est vraiment un héritage du papier, c'est-à-dire à chaque livre correspond une fiche. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté des catalogues sur fiche, non, dans les bibliothèques, il y en a pratiquement plus. Hein. Ils les ont enlevés, malheureusement jetés dans certains cas, ce qui est un peu dommage parce qu'il y a encore des notations qu'on ne retrouve pas dans les catalogues numériques. Mais jusqu'à une époque pas si lointaine finalement, jusqu'à il y a encore, je dirais, 15 ans, 20 ans, les catalogues étaient sur des fiches Bristol, dans des tiroirs. Et il y avait trois catalogues dans la plupart des bibliothèques. Il y avait un catalogue par auteur, donc les livres étaient classés par auteur, un catalogue où les livres étaient classés par titre, sans l'article, et un autre catalogue avec les sujets, ce qu'on appelait catalogue matière. Donc vous voyez, ce sont ces catégories-là anciennes qu'on va retrouver dans le catalogage moderne. Mais il est évident que avec l'accès aux textes eux-mêmes, on arrive à un autre type de recherche, puisque cette fois-ci, on cherche directement dans le texte de l'ouvrage. On ne passe pas par l'indexation faite par un professionnel, on va directement chercher l'ouvrage. Je vous montre ça dans Google Livres, par exemple, pour vous montrer la différence. Vous voyez, dans Google Livres, si je cherche toujours mon équation, la Marcel Proust, etc., je peux tomber sur des titres que j'ai déjà trouvés, comme Marcel Proust and Photography, ou Marcel Proust sous l'emprise de la photographie, hein, le livre de Brassailles qu'on a déjà trouvé. Mais par contre, ici, la photographie est Marcel Proust. Mais dans Marcel Proust aujourd'hui, j'ai affaire à un ouvrage que je n'aurais peut-être pas ouvert a priori d'après son titre, mais dans lequel il y a des mentions sur la photographie. Ça va être le cas de... Alors je vais trouver donc le bulletin Marcel Proust. Oui, je vais prendre le cas du bulletin Marcel Proust peut-être. C'est la revue... Hein. Mais vous voyez que je tombe sur un titre d'article qui est « Le seul amour de Proust est pour la photo ». Donc j'ai là une source que je n'aurais pas trouvée, parce qu'évidemment, je n'aurais pas forcément dépouillé toute la revue pour voir s'il y avait un article sur la photo. Là, on m'y dirige directement. En revanche, c'est la frustration dont je vous parlais tout à l'heure, toujours l'état de mutation dans lequel nous sommes. Google me dit qu'à la page 40 de cette revue, j'ai un article intéressant, mais on ne m'en donne que 5 lignes. Donc il faut que j'aille dans une bibliothèque, c'est-à-dire que j'aille sur Sudoc, que je vois où est la revue, que je m'y déplace, que je demande à un bibliothécaire d'aller me chercher le volume, on me l'apporte une demi-heure après, ou on me dit qu'il n'est pas là, enfin ça dépend le cas, et je vais tourner les pages jusqu'à la page 40 et je vais enfin trouver. Donc, hein, c'est toujours ce mélange entre des époques différentes hein, que nous vivons aujourd'hui. Mais vous voyez que là, le type de recherche est très différent. Cette fois-ci, je vais chercher directement dans le vocabulaire qu'a utilisé le critique pour parler de mon sujet. Ce qui me permet éventuellement de rechercher des choses beaucoup plus précises. En disant, par exemple, Marcel Proust et la photographie, comme ça, toute l'expression entre guillemets. Voilà, vous voyez, je vais tomber sur des citations dans lesquelles il y a vraiment l'expression elle-même, dont ce livre sur photographie et société de Gisèle Freund, que j'aurais peut-être pas ouvert comme ça a priori si on m'avait pas signalé qu'on y faisait référence à Proust. Ah, donc s'ouvre, disons, de nouvelles méthodes de recherche bibliographique qu'il va falloir qu'on explore aussi et dont je vais vous parler spécifiquement dans ce cours. Voilà, je reviens à mes catalogues de bibliothèques. On a vu donc les deux principaux, hein, je dirais, pour vous, c'est-à-dire le catalogue des bibliothèques universitaires pour la facilité d'accès, le catalogue de la Bibliothèque nationale pour son côté exhaustif et son... le fait que ce catalogue constitue une référence bibliographique. Si vous hésitez, par exemple, au moment où vous rédigez votre bibliographie, allez voir le catalogue de la BNF. Mais il va de soi que toutes les bibliothèques ont un catalogue, donc Sainte-Geneviève, la Sorbonne, etc. Donc chaque bibliothèque a un catalogue. Lorsque c'est une bibliothèque universitaire, je vous dirais volontiers, allez sur le Sudoc, ça la remplace. Mais vous avez aussi d'autres bibliothèques qui peuvent être intéressantes de consulter. Alors, il y en a un nombre tellement grand que je ne vais pas en faire la liste, mais juste pour vous signaler des pistes, je vous parlais tout à l'heure de bibliothèques spécialisées. Il existe par exemple à Paris une bibliothèque qui s'appelle la Bilipo, qui est la bibliothèque des littératures policières. C'est donc une bibliothèque municipale qui est à deux pas d'ici, rue du Cardinal Lemoine, et qui est spécialisée en romans policiers. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui travaillez sur le roman policier, mais vous imaginez quelqu'un qui travaillerait sur ce sujet-là va être évidemment très intéressé par cette bibliothèque-là. Il y a des bibliothèques spécialisées en littérature jeunesse, par exemple. La bibliothèque Heure Joyeuse, par exemple, qui est une bibliothèque associative qui essaye de collectionner toute la littérature jeunesse. Donc, vous voyez, dans un cas pareil, hein, si vous travaillez là-dessus, c'est cette bibliothèque qui va vous intéresser. Donc, ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a des bibliothèques spécialisées que vous découvrirez sans doute en faisant votre bibliographie, parce que vous verrez que les livres sont dans cette bibliothèque-là et la bibliothèque attirera votre attention. Certaines bibliothèques sont aussi commodes par leur facilité d'accès. Je pense aux bibliothèques municipales. Alors, pour ceux d'entre vous qui habitez Paris, il y a le réseau des bibliothèques municipales de Paris. Donc, même remarque, hein, il y a un catalogue, on peut savoir s'il livre est dans les rayons ou s'il a déjà été emprunté, on peut le réserver, on peut savoir dans quelle bibliothèque. Si vous êtes abonné dans une bibliothèque municipale, vous êtes abonné, en fait, vous pouvez aller dans n'importe laquelle des bibliothèques de la ville de Paris. Mais dans la commune où vous résidez, il y a une bibliothèque municipale, certainement, et cette bibliothèque a un catalogue, très certainement, qui est en ligne, donc vous pouvez vous en servir. L'avantage de ces bibliothèques, c'est la facilité d'accès. Généralement, tout est en accès libre. Et la facilité pour emprunter aussi, évidemment, les ouvrages. Hein, donc, un grand nombre de bibliothèques, identifiez-les, découvrez-les, sans doute à travers votre bibliographie, mais ça va vous permettre de vous guider vers les bibliothèques les plus pertinentes. Un autre outil que je voudrais mentionner maintenant, donc jusqu'à maintenant on a vu des catalogues de bibliothèques, ce qui est logique hein, pour chercher les ouvrages, c'est quand même là qu'on va d'abord, même si maintenant il y a des bibliothèques numériques qui permettent d'accéder directement au contenu de l'ouvrage. Je voulais parler des sites de vente d'ouvrages, donc les librairies en ligne, qui sont la plus emblématique est Amazon, mais il y en a beaucoup, hein, Fnac, Chapitre, etc., beaucoup de librairies en ligne. Quel est l'avantage de ces sites? C'est d'abord, évidemment, pour commencer par leur usage principal, la possibilité d'acquérir un ouvrage. Alors, là encore, à Paris, on a de la chance, il y a des vrais libraires qui vous accueillent, qui vous aident à découvrir des livres, donc allez plutôt chez eux. On a même de grosses librairies universitaires dans notre quartier, comme Gibert, par exemple, donc... Évidemment, c'est une ressource, mais parfois, il s'agit d'ouvrages difficiles d'accès. Les librairies ne l'ont pas, alors vous pouvez toujours le commander chez un libraire, mais ça prend un peu plus de temps. Je pense aussi aux ouvrages publiés à l'étranger, qui peuvent vous intéresser. Là, je parle des ouvrages pour lesquels vous avez vraiment besoin ou envie de posséder l'ouvrage et de le lire, de le relire, enfin, de l'avoir toujours sous la main. Sinon, vous pouvez l'emprunter en bibliothèque, hein, bien évidemment. Mais il y a toujours quelques ouvrages, par exemple, votre corpus de référence, hein, s'il n'est pas tout simplement un livre de poche, pour lequel vous pouvez avoir besoin d'écrire les ouvrages. Donc, pour ça, en particulier, vous avez besoin des librairies en ligne. J'ajouterai que les librairies en ligne, de plus en plus, vendent non seulement des livres neufs, mais des livres d'occasion. Ce qui est très intéressant, et pas que pour des raisons financières, c'est que vous trouvez parfois des éditions anciennes qui n'ont pas été reproduites aujourd'hui. Pour certains auteurs, on ne les a plus publiées depuis plusieurs années parce qu'ils sont tombés dans l'oubli ou pour des raisons diverses. Et donc, vous ne trouvez que des ouvrages anciens. Ce qu'on appelle un livre épuisé dans le domaine de l'édition, c'est-à-dire un livre qu'on ne peut plus trouver en librairie, mais qu'on peut éventuellement acheter sur le marché de l'occasion. Alors, je vais juste... regardez avec vous le site Amazon, qui est encore une fois le plus connu peut-être, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, mais vais aller au livre. Hein, on va, vous savez qu'on peut acheter toutes sortes de choses, mais je vais aller sur les livres. Voilà. Donc, l'avantage, c'est évidemment de pouvoir acheter des ouvrages, y compris des ouvrages anciens. Vous voyez, vous avez ici les livres d'occasion. Alors, les livres d'occasion, c'est d'ailleurs un système un peu complexe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce n'est pas Amazon, en fait, qui vous les vend. Ce sont des vendeurs particuliers ou professionnels qui utilisent Amazon pour faire la publicité pour leurs livres. Amazon prélève au passage son écho. Mais en fait, ce sont parfois des particuliers hein, qui vendent leurs livres de cette manière-là. Mais en tout cas, voilà, vous y avez accès à travers le catalogue d'Amazon. Donc ça, c'est l'utilisation principale. Ne négligez pas non plus le moteur de recherche de ces sites marchands, parce que ce sont des moteurs de recherche qui sont souvent très bien faits, pour la même raison, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir plus de clients. Et donc, parfois, vous allez peut-être trouver des réponses que vous n'avez pas trouvées dans des catalogues de bibliothèques ou sur des sites universitaires. Hein, donc, n'hésitez pas à réutiliser vos mots-clés. Je vais voir si ça fonctionne ici. Oui, ben voilà, je retrouve le livre de Brassailles, par exemple. Ah oui, 1950, quand même. Bon, et le musée imaginaire de Marcel Proust, hein, que j'avais déjà vu. Mais vous voyez que les réponses sont, compétitives, hein, avec celles qu'on a vues sur les catalogues universitaires. La différence, évidemment, c'est que vous avez un prix, un lien pour vous procurer l'ouvrage. Certaines rubriques peuvent être intéressantes également. Par exemple, il y a souvent, non là il y a une biographie de l'auteur, mais il y a parfois la quatrième page de couverture qui est reproduite. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. Voilà. Et puis cette fameuse rubrique d'Amazon, les clients ayant acheté cet article l'ont également acheté. Alors bon, on voit bien l'utilisation marchande, mais ça peut être intéressant pour nous parce que, vous voyez par exemple cet essai sur les usages sociaux de la photographie de Bourdieu, ça peut nous suggérer une piste éventuellement. C'est-à-dire d'autres acheteurs qui s'intéressaient à la photographie chez les écrivains ont acheté aussi ces ouvrages-là et cet essai également sur la photographie entre documents et art contemporain pourrait nous intéresser. Donc le catalogue, disons, d'Amazon peut aussi être intéressant pour nous de cette manière-là. Donc trouver des ouvrages plus rares, et y compris des ouvrages épuisés, mais également consulter le catalogue de cette manière-là. Il y a aussi cette chose toute simple, c'est que sur ces catalogues, généralement, les couvertures sont photographiées. On peut même, dans certains cas, je vais voir si c'est le cas ici, voilà, voir la quatrième page de couverture aussi. Vous voyez, en cliquant dessus, je peux lire la quatrième page de couverture. Là encore, une grande partie de votre temps de bibliographie va consister à éliminer des livres parce qu'en fait, ils ne concernent pas votre sujet. Donc ce genre d'outil peut quand même être vraiment utile parce que ça peut vous permettre d'éliminer un certain nombre de pistes qui risquent de vous faire perdre du temps de cette manière-là. Voilà, alors les avis sur le livre, dans certains cas, peuvent vous aider. Là encore, lorsque vous avez des livres dans une autre langue, vous savez qu'Amazon existe dans tous les pays, ça peut être utile d'utiliser la traduction automatique pour savoir un peu ce qu'on dit de votre livre. Encore une fois, pour savoir si vraiment c'est un livre qui vous intéresse ou pas et s'il peut contenir quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Ah, donc voilà pourquoi je voulais... Alors, je vous ai montré Amazon parce que c'est le plus connu, mais la FNAC a également un site très, très complet. Autre utilisation de ces sites, je vous le signale quand même, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent là-dessus en sociologie de la littérature, travailler sur la réception. C'est-à-dire, non pas travailler sur l'ouvrage lui-même, mais sur la manière dont il a été lu, dont il est accueilli. Et là, ça peut être un outil aussi très utile, avec des articles de journaux dont on parlera la prochaine fois. Savoir comment le site est présenté sur un site de vente, ça peut être intéressant pour vous parce que ça peut vous donner des indications sur la manière dont le livre est compris, vendu, en l'occurrence, etc. Les avis aussi, dans un cas comme ça, peuvent vous intéresser. Même le prix, à la limite, ou les indications sur l'éditeur peuvent être tout à fait intéressantes
de ce point de vue-là. Hein, donc n'hésitez pas à vous servir de ces sites-là, ils sont tout à fait utiles. Donc, des catalogues de bibliothèques. Des sites commerciaux, des bibliothèques en ligne. Hein, voilà donc un certain nombre des outils que vous pouvez utiliser. Dans le temps qui me reste, ce que je voudrais vous montrer, c'est un outil dont je reparlerai de manière plus détaillée dans la dernière séance, mais qu'il est utile que vous connaissiez dès maintenant, c'est Zotero. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Zotero déjà ? Personne ? Oui ? Si ? Vous pouvez nous dire à quoi ça sert en gros, enfin présenter à vos camarades.
Pour constituer une bibliographie.
Oui.
Et conserver nos liens facilement.
Vous l'avez utilisé l'année dernière pour votre mémoire ?
L'année dernière.
C'est-à-dire vous l'avez utilisé donc pour récupérer les notices.
Récupérer les notices et voilà, pour faire ma bibliographie.
Et fabriquer la bibliographie. Alors je vais vous montrer ça très rapidement parce que c'est un outil qui est assez commode. On peut l'utiliser de manière plus ou moins approfondie, mais. Alors, est-ce que je vais je vais l'installer comme ça vous verrez y compris cette partie là. Alors le logiciel Zotero a un petit peu changé récemment de type d'installation, peu importe. Il faut aller donc sur le site. C'est un logiciel libre, open source, enfin évidemment qui est disponible, que vous allez donc télécharger. Voilà, je vais prendre celui pour Windows dans mon cas, mais il existe pour tous les systèmes. Voilà, je laisse se télécharger. C'est un logiciel donc, qui va s'installer sur mon ordinateur et un logiciel que je vais pouvoir connecter, vous voyez, avec mon navigateur. Alors, il se connecte avec au moins... Firefox, mais il se connecte également avec Chrome et avec Safari, d'ailleurs. Hein, donc, suivant le navigateur que vous utilisez, vous pourrez utiliser l'un ou l'autre. Alors, le Zotero va vous permettre de faire deux choses différentes. La première, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, ça va vous permettre de récupérer les notices bibliographiques des catalogues de bibliothèques. C'est-à-dire, plutôt que de les recopier à la main ou de faire des copier-coller qui... vont être un petit peu compliqués. Vous pouvez déjà mettre tout ça dans une base de données et gérer votre base de données directement sur votre ordinateur. Donc ça vous permet de gérer en quelque sorte hein, votre bibliographie. Et dans un deuxième temps, donc ça on le verra plus tôt dans la dernière séance, vous allez pouvoir fabriquer votre bibliographie automatiquement à partir de cette base de données. Alors je vais attendre que le... Je vous fais une démonstration très rapide. Sur le site de Zotero, vous allez trouver des vidéos, y compris en français, qui vous expliquent comment s'en servir. C'est la meilleure manière peut-être de consulter le mode d'emploi. Voilà, j'installe le logiciel. Se fait assez rapidement. Bon, j'ai déjà une petite collection que je vais supprimer. Voilà donc comment se présente le logiciel. Vous voyez que vous avez une bibliothèque à côté. Alors cette bibliothèque, vous pouvez la subdiviser, c'est-à-dire avoir plusieurs catégories. Là, je vais garder une seule bibliothèque dans mon cas. L'autre partie de l'installation, on l'a déjà vu tout à l'heure, va vous demander d'installer un connecteur. Vous voyez, je suis dans mon navigateur ici. Voilà, le navigateur est ajouté. Est-ce que c'est...
comme ça quand on veut démontrer que c'est très simple. Ah oui, voilà, ça y est, je l'ai ici. Vous voyez, il se manifeste par ce Z ici, qui va s'afficher là dans certains cas. Donc, je vais revenir sur le catalogue Sudoc, par exemple. Je vais revenir à ma recherche du début. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, dans Sudoc, ici, vous voyez, en haut à droite, s'affiche un petit symbole comme ça qui représente un dossier. En cliquant dessus, on va m'afficher la liste de tous les ouvrages qui sont affichés là. Et j'ai plus qu'à les cocher pour les rentrer dans Zotero. Donc je voudrais garder ce livre, celui-ci et celui-là. Voilà, OK. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez que dans Zotero, j'ai mes ouvrages ici qui ont été rajoutés. En cliquant sur un ouvrage, vous allez voir le travail que fait Zotero, c'est-à-dire, vous voyez, il vous fabrique une fiche complète avec tout ce dont on va avoir besoin pour fabriquer la bibliographie. Alors, ça fonctionne dans la totalité des outils que je vous ai montrés ici, mais encore dans bien d'autres, je vais aller sur le catalogue de la BNF, peut-être. Dans lequel on va pouvoir faire quelque chose de similaire. Vous voyez, même principe, c'est-à-dire vous avez ici ceci qui vous permet donc de sélectionner les ouvrages. Et chaque fois donc que vous faites ça, je vais rester sur le Sudoc. L'intérêt, c'est que, d'une part, vous conservez évidemment vos références bibliographiques, mais vous pouvez également les gérer. C'est-à-dire que lorsqu'une référence, par exemple, ne correspond plus à ce que vous voulez, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez en ajouter à la main, parce que vous ne trouverez pas chaque fois... Vous voyez, si je veux ajouter un livre... On m'ouvre une fiche vierge dans laquelle je vais pouvoir taper les indications. Alors, l'avantage, c'est que par rapport à ce que vous feriez sur un simple traitement de texte, hein, je pense que c'est comme ça que vous avez géré votre bibliographie l'année dernière, vous allez taper les mêmes choses, simplement c'est déjà dans des rubriques. Donc, vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié, donc auteur, titre, éditeur, etc. Et surtout, donc ça vous permet de faire toute cette gestion. L'avantage... c'est que à la fin, vous allez pouvoir créer une bibliographie à partir de ces documents. Mais je les sélectionne, je demande à fabriquer la bibliographie, et ensuite dans Word, j'ai plus qu'à la coller comme ceci. Vous voyez, c'est-à-dire ça vous fabrique votre petite notice bibliographique. Comme vous avez fait des bibliographies l'année dernière, vous voyez de quoi je parle, hein, pas oublier une virgule. Se demander si on met deux points ou une virgule entre la ville et le... etc. Donc là, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez bien rentré les données dans votre base de données, vous allez pouvoir générer votre bibliographie automatiquement. Hein, donc voilà pourquoi je voulais vous le signaler, parce que même si vous ne voulez pas aller jusqu'à fabriquer la bibliographie de cette manière-là, vous avez au moins la possibilité de stocker toute votre bibliographie très rapidement et très simplement dans une base de données, que vous pouvez annoter également, hein, je vous le signale, parce que c'est souvent pour ça qu'on passe plutôt par le traitement de texte. Vous voyez, par exemple, si cet ouvrage, enfin j'ai lu l'ouvrage et je veux...